Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous étions quittés la dernière fois en évoquant la fameuse salière qui a permis en quelque sorte à Hippolyte d'être échangé et de récupérer commande de Chalim. Petite précision sur cette salière, j'ai appris entre autres qu'après le vol dont elle avait été la victime, elle est maintenant, pour ceux que ça intéresse, assurée à un modeste prix de 60 millions d'euros. elle est relativement réduite, mais comme quoi le marché de l'art se porte bien en quelque sorte, et celui des assureurs peut-être encore mieux. Nous allons aujourd'hui nous consacrer, non pas à la salière, au fait, j'ai oublié de vous dire, elle avait des roulettes, cette salière. Alors, c'est aussi une diplomatie qui est ambulante, puisque vous vous souvenez, j'avais évoqué le fait, selon l'endroit où on se trouve par rapport à la salière, on est plus ou moins bien placé dans la cour. Alors, cette diplomatie ambulante, elle peut se faire même à table, puisqu'on peut faire rouler la salière vers un personnage qu'on veut distinguer lors, évidemment, des échanges pendant les agapes. Alors, revenons-en maintenant à Hippolyte. Moi, j'ai dit Hippolyte le magnifique, il magnifico. Hein. Alors, je vous rappelle qu'il est né à Ferrare en 1509 et qu'il meurt à Rome en 1572. C'est une irrésistible ascension que celle d'Hippolyte. Irrésistible, mais qui aura quand même des limites, puisque par trois fois, il va échouer pour la conquête de la tiare papale. C'est-à-dire que, bien qu'il était lui-même le petit-fils du pape Alexandre VI, eh bien, il ne pourra pas monter sur le trône du Vatican, en quelque sorte. Et pourtant, il avait tout ce qu'il fallait pour être secondé dans cet espoir. Je pense que, d'abord, il est le cousin du roi François Ier, puisque son frère Ercole ou Hercule avait épousé, en 1527, René de France, la sœur de la reine Claude. On plaisante toujours en parlant des prunes, mais oui, ça vient de là. La sœur de la reine Claude, donc. Et d'ailleurs, René de France va connaître quelques années plus tard des difficultés importantes, puisqu'elle a invité, n'est-ce pas, un seigneur tout à fait, seigneur entre guillemets, tout à fait étonnant à la cour de Ferrare, un certain Calvin. Alors vous imaginez, dans un duché marqué par le catholicisme, où l'inquisition est très proche, où le pape encore plus, eh bien elle prenait un risque énorme, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, elle se rend en quelque sorte sous surveillance.
Mais vous dites, Jean-Marc, petit-fils de pape ?
Oui, c'est un peu surprenant.
Parce que quand même, je ne savais pas que c'était une charge qui pouvait se transmettre comme ça.
Ben, c'est assez surprenant, oui, tout à fait, puisque... À cette époque, il était jugé, certes, un petit peu choquant, mais dans la bonne humeur de la société, que le pape ait quelques désirs à assouvir et que ces désirs se soldent par des cadeaux, voulus ou non.
D'accord.
Bon, ben d'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que si on avait eu une littérature à scandale à cette époque, eh bien, Hippolyte aurait fait des premières pages. Enfin, non seulement il était le fils d'un pape, donc je répète, Alexandre VI, mais vous vous rendez compte, sa mère s'appelait Lucrèce Borgia.
Ah oui, d'accord.
Lucrèce Borgia, la pauvre, qui a été massacrée par Victor Hugo, qui en a fait une espèce de dame légère, qui aurait eu quelques privautés, on ne sait pas trop, son frère, son père, enfin quelque chose d'assez abominable. Mais je pense que les historiens ont petit à petit remis les choses à leur place, et la dame en question, évidemment, est tout à fait un personnage intéressant, très cultivé, et qui va, à son troisième mariage d'ailleurs, développer une cour où les arts sont les bienvenus. Alors revenons-en à notre Hippolyte, qui fait quand même une belle carrière au départ. Il est nommé archevêque de Milan à l'âge de 10 ans.
Oui.
C'est ma foi une belle promotion. Donc on l'élève à la cour de Ferrare. N'oubliez pas que la cour de Ferrare à l'époque est l'un des centres intellectuels les plus brillants des 15e et 16e siècles. Il reçoit une éducation humaniste de grande qualité. Je mettrai quand même un petit bémol. Ce qui m'a surpris dans les archives, c'est une éducation humaniste, certes, mais souvent violente. Le père n'hésite pas à taper ses fils.
Ah, d'accord. Hein. Oui.
De la même façon, on verra que le neveu d'Hippolyte va se retrouver en difficulté à la suite de pugilats, comme ça. Il va tomber dans l'escalier, il restera plus ou moins infirme à la suite de recommandations un peu violentes de son père. De la musique, de la peinture, la sculpture, les médailles, la gravure, l'activité culturelle d'Hippolyte est importante. Venons-en rapidement, si vous voulez, à son arrivée en France. Donc on est en 1536, une date assez triste d'ailleurs, parce que le fils aîné de François Ier vient de mourir. Vous savez, celui qu'on appelle François II, qui était donc le dauphin, qui était destiné à succéder à son père, est mort à la suite d'une activité sportive, le jeu de paume. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Le jeu de paume est quelque chose d'important à cette période. D'ailleurs, on a retrouvé celui de Villers-Cotterêts récemment. On le connaissait sur les plans, on le connaît un peu mieux maintenant sur le plan archéologique. Alors, il aurait joué au jeu de paume, mais il aurait tapé la balle, en quelque sorte. Et puis, un petit peu échauffé, il aurait bu un verre d'eau froide. Et il serait mort, n'est-ce pas, à la suite de l'absorption du verre d'eau froide. Ah, faut-il le croire écoutez, je vous laisse choisir. Sachez simplement que cette histoire de verre d'eau froide peut avoir parfois des raisons médicales de troubles digestifs, certes, mais que c'est surtout une légende. Il y a beaucoup de gens qui meurent au Moyen-Âge ou à la Renaissance après avoir absorbé un verre d'eau froide. Il y en a d'autres qui meurent en se rendant au jeu de paume et en tapant de la tête dans un linteau de porte. Oui. Et, bon, voilà, c'est une petite remarque en passant. Et c'est cette même année donc, que François Ier et Hippolyte vont se rencontrer à la chasse, bien évidemment, comme on l'a vu déjà. Hein, il vaut mieux être un chasseur invétéré pour pouvoir fréquenter la cour de François Ier. Quelques années plus tard, il arrive enfin à ce à quoi il aspirait, devenir cardinal. Mais devenir cardinal, c'est pas simple. Si pendant de nombreuses années la cour de Ferrare est très proche de la cour de France, le duc de Ferrare, donc le frère d'Hippolyte, se trouve dans une situation très difficile parce qu'on est dans un trio infernal. Vous savez, à cette époque, il y a l'empereur Charles Quint d'un côté, omnipotent, je dirais, l'Espagne, la Flandre, l'Autriche, etc. Il y a le pape et il y a François Ier. Et le duc de Ferrare est bien hésitant. Doit-il suivre l'avis du pape, qui n'a guère de plaisir à donner le chapeau cardinaliste à Hippolyte, mais doit-il se fâcher avec Charles Quint, qui ne veut pas entendre parler d'Hippolyte parce qu'il est trop favorable aux intérêts de la France. Finalement, sans rentrer dans les détails, en 1539, il devient cardinal. Alors, c'est toute une cérémonie assez compliquée. Il y a une période pendant laquelle il a la bouche fermée. Il n'a pas le droit de parler en tant que cardinal. Hein. Motus et bouche cousue. Je ne sais pas si l'expression vient là. Cordine. Et donc, on va lui ouvrir la bouche. C'est-à-dire qu'il va être officiellement cardinal quelques mois plus tard. Ce rite de la bouche ouverte ou fermée, on le retrouve dans l'Antiquité égyptienne, par exemple. Ah. Hein. On peut penser qu'il y a là des relations qui pourraient se faire entre ces deux pratiques. Très rapidement, il va se lier d'amitié avec le roi, à tel point qu'en 1540, c'est-à-dire 4 ans après la rencontre, il est nommé dans le conseil privé du roi, ce qui est tout à fait un honneur incomparable. Il devient, on dirait presque de nos jours, un des ministres les plus importants du roi. Lui, le prélat italien, quand même, c'est quelque chose qui va être permanent. C'est un prélat italien qui va représenter les intérêts de la France, les intérêts de la monarchie française, tout au long de sa vie, ou presque. En échange, le monarque lui promet de lui faire occuper des molto onorato luogo, c'est-à-dire des lieux, il va lui donner des abbayes tout simplement, il va lui donner des ressources tout à fait considérables, des abbayes, des évêchés, des archevêchés, on en verra quelques-uns. La valeur des titulatures épiscopales ou abbatiales qui sont accordées par le roi n'est pas seulement financière, elle est aussi honorifique. Par exemple, quand le roi lui donne sa médaille de Soissons, qui malheureusement ne subsiste qu'à l'état de quelques rares ruines, eh bien, c'est parce que c'est le berceau mérovingien et carolingien. S'il lui donne la Béroëlle de Chély, parce que c'est le berceau des Capétiens. C'est-à-dire que ça répond à ces différents critères tout à fait importants dans une monarchie qui cherche toujours à s'établir, hein, et à établir, évidemment, son authenticité. Très rapidement aussi, sa large culture, ses talents sportifs et son habileté de courtisan ont fait du cardinal un personnage très influent à la cour de France. François Ier ne sera pas le seul à lui faire des donations. On verra que ses successeurs vont continuer cette pratique et on va continuer à lui offrir multiples charges ecclésiastiques. Et on peut dire que c'est le cardinal le plus riche de cette période. On lui suppose des revenus annuels de 120 000 écus. Bon, c'est très difficile de vous donner des correspondances. C'est une fortune assez considérable quand même. Mais ça ne suffit pas, car souvent les dépenses excèdent les recettes. Et toute sa vie durant, Hippolyte va s'employer à chercher soit des moyens de rembourser, soit des moyens de satisfaire d'une façon ou d'une autre ses créanciers. Et il va faire la chasse à la commande. Je vous rappelle que la commande, C-O-M-E-N-D-E, pour les passionnés d'orthographe, c'est tout simplement la possibilité pour un homme qui est distingué, c'est d'avoir les ressources d'une abbaye, d'un évêché ou d'un archevêché. Depuis le Concordat de Bologne, c'est un petit rappel, on en a déjà parlé, en 1516, c'est le roi de France qui va nommer aux grandes titulatures ecclésiastiques, c'est-à-dire ce que je viens d'évoquer, les abbés et les évêchés et les archevêchés, ou presque. Je dis ou presque parce que toutes les régions n'étaient pas concernées par le Concordat de Bologne. Il poursuit donc sa politique de mécénat telle qu'il avait commencé à Ferrare. Et on va voir autour de lui des architectes, Sebastiano Serlio par exemple, ou des peintres, Francesco Prismatici, on le verra, ces deux-là, on les verra Chali. Oui. Mais aussi un peu plus tard, Piero Ligorio, qui sera, je dirais, la cheville ouvrière de la Villa d'Este à Tivoli, qu'on a déjà évoqué. Hein. Tivoli, je précise, se trouve au nord-est de Rome. Hein, quand on monte dans les Abruzzes, c'est aussi une ancienne abbaye dans laquelle il va s'installer beaucoup plus tard, presque 30 ans après Chali. Donc vous avez la possibilité, évidemment, l'été, de vous rafraîchir parce que vous êtes quand même en altitude.
Oui, les Abruzzes.
Et puis surtout, on le verra aussi, Hippolyte va mettre en œuvre un jardin tout à fait extraordinaire, comme dans la chanson, hein, puisque ce jardin est une succession de terrasses presque abrupte. Ce ne sont pas les falaises de la côte normande, il ne faut pas exagérer. Mais en tous les cas, c'est un aplomb tout à fait redoutable. Et d'une terrasse à l'autre, les jets d'eau se multiplient à l'envi. Hein, et d'ailleurs, pour ceux qui vont à Tivoli, ils verront qu'en sortant de l'ancienne abbaye, qui est devenue le palais abbatial, il y a toute une série de petits monuments comme des maquettes. C'est ce qu'on appelle la Rometta, tout simplement la petite Rome. Car à un moment donné, les rapports entre Hippolyte et le pape sont si détestables que Hippolyte se voit condamné au séjour de la Villa d'Est sans pouvoir en sortir. Alors, comme il ne peut pas l'avoir tous les jours en fonction de la météo, et ben cette merveilleuse ville de Rome, il va se la faire construire en maquette, en quelque sorte, devant le palais. Parmi les humanistes et latinistes, je pense qu'il y a une personne dont on va reparler, c'est Marc-Antoine Muret. Muratus pour les latinistes, ou encore, je pense à un autre poète, c'est Torquato Tasso, le Tasse, qui va venir à Chali. Et si je n'en parle pas trop pour l'instant, c'est surtout son neveu, Louis d'Est, Aloysius d'Est, qui va amener à Chali le Tasse. Donc c'est pas le moment peut-être de développer cette incursion tout à fait extraordinaire d'un des plus grands poètes italiens à Chali. Alors, pourquoi je me suis arrêté tout à l'heure sur Marc-Antoine Muret? Tout simplement parce que c'est un personnage important. Ça va être le professeur des grands poètes de la Pléiade. Et puis, plus tard, il va même devenir le secrétaire personnel d'Hippolyte de d'Este à Tivoli. Et c'est à lui que l'on doit un certain nombre de poèmes qui nous expliquent beaucoup mieux les emblèmes, en quelque sorte, on va dire les armoiries d'Hippolyte, mais surtout le pourquoi de toutes les fresques que nous allons découvrir dans la chapelle de Sainte-Marie. Alors, on l'a vu, c'est en février 1541 que Hippolyte reçoit de François Ier la commande de l'abbé royal de Chély. C'est vrai que le train de vie du nouveau cardinal s'est considérablement augmenté, les ressources de l'archevêché de Lyon, de l'abbaye de Jumièges et de l'abbaye Saint-Médard de Soissons ne sauraient suffire. Donc, la chasse que j'évoquais tout à l'heure est ouverte, en quelque sorte. Il va vivre, il va suivre la cour, hein, il vit à Fontainebleau. Et à Fontainebleau, il se fait construire une espèce de palais, ce qu'on appelle le Grand Ferrare, une délizia, si on veut employer le terme italien, un hôtel à la campagne, on dira plus tard une maison de plaisance, hein, au XVIIIe ou XIXe siècle. Ce Grand Ferrare donc, va être édifié face au palais royal de Fontainebleau. Pour ceux qui connaissent le château, on dit le château, mais ce n'est pas vraiment un château, c'est plutôt un palais. Le palais de Fontainebleau, en face du grand escalier, à l'extérieur, il y a un parking, il y a des petits cafés autour. Et au fond, il y a un mur où il reste le portail, seulement. Il ne reste que le portail du Grand Ferrare, avec deux colonnes engagées de part et d'autre de ce grand portail. C'est le seul souvenir que nous ayons du Grand Ferrare, construit par Sebastiano Serlio, que j'évoquais tout à l'heure. Et je répète, Serlio, c'est quand même le plus grand architecte de cette période. Hein. C'est je compare au Vitruve de l'Antiquité. Et puis surtout, il y a Primatis. Primatis qui travaille donc à Fontainebleau depuis 1540. Auparavant, c'était un autre Italien, c'est Rosso. Et cet Italien, pour des raisons qu'on ne connaît pas d'ailleurs, s'est suicidé en 1540. Et c'est Primatis qui va donc devenir celui qui va gouverner les travaux du roi. À part une petite éclipse, il le fera jusqu'à la fin de sa vie. C'est donc le maître d'œuvre, je dirais, des palais royaux. Donc ce Grand Ferrare, alors là aussi une petite anecdote qui va nous ramener à l'évocation du jeu de paume. On est dans les années 1544-1545. François Ier demande à Hippolyte d'installer aussi un jeu de paume dans le Grand Ferrare. Il y en a un qui existe toujours, hein, à Fontainebleau. Mais dans le Grand Ferrare, eh bien, François Ier vient le matin échanger des balles avec Hippolyte. Mais il ne faut pas oublier, Hippolyte, que Hippolyte est un excellent joueur de paume. C'est le Roger Federer, je prends toujours cette comparaison d'époque. Chacun veut essayer d'échanger des balles avec Hippolyte. Et Hippolyte est très soucieux, évidemment, de son matériel. Dans sa correspondance, on voit qu'il demande des raquettes fabriquées de telle façon, il veut renouveler ses balles. Enfin, c'est un de ses soucis majeurs que de se faire envoyer de Ferrare vers la France, évidemment, le matériel nécessaire pour son exercice favori. Hein. Bon, c'est quand même étonnant pour nous, évidemment, d'imaginer un cardinal sur les cours de Roland-Garros. Ouais. Hein. Mais c'est presque ça, ouais. Hein, au niveau de la renommée. Pour lui, malheureusement, en 1547, c'est la mort de François Ier. Ouais. Donc, il voit là disparaître son premier supporter, hein, pour prendre ce mot anglo-saxon. Et ça va marquer un ralentissement, hein, dans son irrésistible ascension. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être abandonné par la classe politique. Hein. Il continue à être l'un des plus grands personnages de la vie artistique et mondaine. Et quand il est en Italie, il continue à exercer cette activité, je dirais, débordante de fêtes, de chasses, d'activités artistiques, il ne faut pas l'oublier. Hein. On peut dire que quand il rentre en Italie, il voudrait bien succéder au pape, hein. Donc, il prend toutes les mesures qui pourraient l'aider à cela, les alliances. Et surtout, il se fait construire un palais, pas loin de Rome, à Monte Giordano. On peut dire que ça a déjà des allures de résidence pontificale. Hein. De la même façon que les papes actuels ont une résidence sur les hauteurs, quand il fait un peu trop chaud, n'est-ce pas, oui. Au Vatican, Alba. Et puis, Hippolyte va faire la même chose. Pour vous donner une idée de la fortune du cardinal de Ferrare, je vais vous faire une énumération des commandes. Alors, ces commandes, il va les recevoir sous François Ier, puis, évidemment, sous son successeur, le fils cadet de François Ier, qui se nomme Henri II, hein, qui terminera tragiquement, comme vous le savez, François II et Charles IX. Ces rois, tous ces rois de France, vont accorder à Hippolyte des commandes. Alors, il n'a pas tout en même temps. Hein. La liste que je vais vous donner, évidemment, ne tient pas compte de la date de début et de fin. Et puis, quand on a une commande, ça ne veut pas dire, si on a, par exemple, si on a l'évêché d'Autun, ça ne veut pas dire qu'on est évêque d'Autun. Parce que pour être évêque d'Autun, il faut être aussi prêtre, il faut être en quelque sorte ordonné. Mmh. Donc, si on n'est pas prêtre, eh bien, on est, on dirait de nos jours, administrateur général. Hein. Et surtout, on perçoit évidemment une grande partie des revenus. Eh bien, il va avoir successivement, ou d'une façon concomitante, l'archevêché de Lyon, de Narbonne, d'Auch et d'Arles. Il va aussi recevoir l'évêché de Tréguier, d'Autun, de Saint-Jean de Maurienne. Quant à la liste des abbayes, il y en a une vingtaine. Rappelez-vous Saint-Médard de Soissons que j'évoquais il n'y a pas longtemps, Jumièges, Chaly, Fontfroy, Notre-Dame de Lire, Flavigny. Chacun connaît les anises de Flavigny, non, les gourmands là. Saint-Vivant, Boulbonne, Notre-Dame de l'Aumône, Saint-Georges de Bosquerville, bah ça on est reparti vers la Normandie. Hein. Pontigny quand même, ce qui est la mère de Chaly dans l'organisation cistercienne. Notre-Dame de Breteuil, c'est moins connu, mais c'est bien le Breteuil de l'Oise. Hein. Prémontré, grande abbaye elle aussi, Saint-Mémin de Missy, Tiron, Saint-Martin-d'Aînais, Saint-Lomer-de-Blois, et pour nous, évidemment, deux autres abbayes qui nous intéressent, Lompon.
Ah oui.
Donc vous voyez, c'est la route entre Villers-Cotterêts et Soissons.
Oui.
L'abbaye de Lompon, une abbaye cistercienne aussi, et Saint-Faron de Meaux. Donc vous voyez que si on fait une carte de ces commandes, je me suis amusé à la faire, évidemment, vous en doutez, eh bien on s'aperçoit qu'on est devant une carte de France où les abbayes d'Hippolyte ceinturent complètement Paris.
Ah oui.
Alors, il a quelques commandes dans le sud de la France, mais pour le reste, c'est essentiellement autour de Paris. On va voir que c'est en rapport, bien sûr, avec la politique royale. Je suis obligé d'évoquer quand même un drame dans le règne de François Ier. C'est la bataille de Pavie. Hein. Peut-être chacun s'en souvient quand il suivait des cours d'histoire. On est en 1525. Et là, François Ier se prend une fessée hein, de la part de Charles Quint, je ne peux pas dire autrement. Et tellement, d'ailleurs, qu'il se retrouve prisonnier de Charles Quint. Prisonnier, et Charles Quint l'enferme carrément à Madrid, ce qu'on appelle la captivité de Madrid. Et il ne pourra se sortir de cette captivité, humiliante au possible, vous imaginez, que grâce à l'entregent de sa mère et de sa sœur. Et ce sont ces deux dames qui vont tout faire pour délivrer le roi de France, moyennant quoi il faudra qu'il signe, je ne rentre pas dans les détails, mais des traités tout à fait négatifs, on le dirait, pour la couronne française, des pertes de territoire, des pertes d'autorité d'une façon générale, de l'argent. Et pire encore, s'il est délivré, il faut qu'il laisse des gens en otage. Et ces otages, qui sont-ils? Ces deux fils. Hein, ces deux fils, François II, dont on a parlé récemment, il doit avoir 8-9 ans, et puis le plus jeune encore, Henri II, eh bien, ils n'oublieront pas non plus les deux fils, c'est évident. Ça sera très mal vécu, en quelque sorte. Passons maintenant sur cet épisode, mais quand même, à partir de là, quand il revient dans son royaume, on peut dire que François Ier va quitter, en grande partie, la vallée de la Loire. Lui, c'est un Angoulême. Alors, je schématise. Lui, c'est un Angoulême. Il se retrouve dans le Valois, qu'il a en apanage. En apanage, ça veut dire tout simplement, quand il n'a pas d'autorité royale, quand il n'a pas de titre, si vous voulez, il garde l'autorité sur le Valois. Mais dès le moment où il devient en France, il doit laisser l'apanage. Plusieurs fois, ça sera sa mère qui aura l'apanage. Et après, ça sera d'ailleurs la reine Margot, donc sa sœur, qui aura le Valois. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Parce que c'est encore une fois le Valois qui se retrouve en quelque sorte au centre de la politique royale. Donc cette chasse à la commande elle va se poursuivre pendant le règne de ces rois que j'évoquais tout à l'heure. Et on verra que si ce qu'on appelle la simonie, hein, la simonie c'est le fait de favoriser sa famille, son neveu, on dit aussi... On emploie aussi un terme qui n'est pas tout à fait équivalent, mais qui montre bien, oui,
Népotisme.
Voilà, le népotisme, c'est-à-dire on favorise son neveu. Oui. Ah, de toute façon, Hippolyte, il est devenu ce qu'il est, n'est-ce pas, grâce à son oncle.
Mais exactement.
Et à son tour, il va promouvoir son neveu, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle donc Louis d'Este.
Peut-être une question quand même, parce que c'est un personnage extraordinaire, cet Hippolyte d'Este. Mais j'arrive pas très bien à comprendre, parce que en dehors de toute sa fortune, toutes ses commandes, ce côté mondain, artistique, etc., quelle importance politique exactement? Parce que là, on parle de l'apanage du Valois, mais on voit pas très bien le personnage politique.
Alors, le personnage politique, il évolue en fonction de la politique. Je veux dire simplement par là qu'on est dans une période terrible, parce que ça va être le début des guerres de religion.
Oui.
Donc, qui est Hippolyte? Comment se situe-t-il par rapport aux ligueurs, qui sont c'est-à-dire les catholiques quelque peu extrémistes, les Guises, par exemple. Oui. Comment se situe-t-il aussi par rapport aux protestants, par rapport à ce qu'on appelle les huguenots?
Oui.
Lui qui est un humaniste. Donc, il est difficile de savoir quel est son avis là-dessus. Et puis, il va changer en fonction des événements. On va voir qu'il y a une date importante pour lui, c'est 1562. Ouais. Peut-être, je vais en parler tout à l'heure, c'est le colloque de Poissy. On va réunir donc les prélats, on va réunir surtout les catholiques, les chefs catholiques et les chefs protestants.
Oui.
Voilà. C'est Catherine de Médicis, sur les conseils de son chancelier Michel de l'Hôpital, qui réunit... Synode, concile, je ne rentre pas dans les détails. Et finalement, ça va être un échec. Puisque la réconciliation qui aurait pu se faire entre catholiques et protestants ne va pas s'opérer. Alors, il y a des tas de ragots, évidemment, à cette période. On dit, paraît même que Hippolyte, Catherine de Médicis et Michel de l'Hôpital auraient assisté à un prêche protestant. C'est quelque chose d'invraisemblable, etc. Par contre, on sait quand même une chose. C'est qu'Hippolyte est délégué à ce colloque de Poissy par le pape, de l'éthéré. Et le pape lui demande d'intervenir contre les protestants avec la plus grande violence, ce qu'il ne fait pas.
Ah oui.
Évidemment, cela va provoquer la colère, l'ire du pape, qui va carrément envoyer un autre personnage, évidemment, beaucoup plus partisan pour lutter contre les protestants. Et à partir de là, on peut dire que la carrière d'Hippolyte se termine pour la France.
Ah oui.
Mais vous savez, cette opposition entre catholiques et protestants, elle n'est pas simple. Je reprends une lettre, sans rentrer dans les détails, une lettre à l'ambassadeur d'Espagne de Catherine de Médicis, qui a été accusée d'être elle aussi protestante. C'est-à-dire qu'on est là étonné par ces fake news, comme on dirait de nos jours, à tel point qu'elles se sont obligées d'écrire... Et de dire, non, je ne suis pas protestant, je suis une vraie catholique. Et on a l'impression parfois de rêver, mais la vie politique de cette période n'est pas différente, peut-être, des vies politiques qu'on a connues par la suite au XXe ou XXIe siècle. Et on ne s'y retrouve pas toujours très bien, puis les gens évoluent aussi. Un tel ou tel personnage n'est pas fixé dans une opinion. Dire d'un personnage qu'il est ceci, cela, oui, mais quand ? Dans sa jeunesse, après tel événement, devant la guerre. Donc c'est un peu la même chose pour Hippolyte. Il est déjà un personnage complexe, mais vivant dans cette situation chaotique, eh bien, il est encore plus difficile de l'appréhender.
C'était « Si Chalim était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalis.